week-end extra avec Mathieu Beaumont, votre magazine du week-end.
Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Ce sont les derniers moments avant les élections de mi-mandat. D'ailleurs, les rallyes partisans se sont multipliés depuis quelques jours. Donald Trump en avait encore en fin de semaine. On est rendu là. C'est vrai, depuis le temps qu'on en parle.
Oui, oui, il est mini moins une, comme on dit.
On va juste rappeler aux gens, parce que je suis pas sûr que c'est un concept qui est tellement compris, parce que ça n'existe pas dans notre système. Pourquoi les mi-mandats, ça touche qui directement?
Oui, parce que les États-Unis sont toujours en élection. Si on veut résumer les choses, là, aux deux ans, il y a des élections aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit des mi-mandats, donc ça coupe le mandat du président en deux. Alors là, il y a le tiers du Sénat qui est en élection, plus des élections spéciales. Alors ça fait un total de 35 sièges qui sont en jeu pour le Sénat, donc le 6 novembre. Il y a les 435 sièges de la Chambre des représentants aussi. Ça, c'est comme si l'Assemblée nationale entrait en élection aux deux ans. Alors ça, ils sont en élection. Il y a 36 États qui vont élire des gouverneurs. Il y a les législatures des différents États, les shérifs, les juges. Donc, il y a des milliers d'élections le 6 novembre. C'est ça qui est particulier aux États-Unis.
Donc, la personne qui se présente à son bureau de vote, sur son bulletin, elle peut voter pour un paquet de candidats, là.
Juste pour l'État de la Floride, par exemple, il y a 12 amendements. On doit voter à 12 amendements. Alors, c'est vous dire ça en plus d'avoir... On vote pour le gouverneur, pour un sénateur et pour des gens dans différents districts électoraux. Alors, ça risque d'être assez lourd pour les électeurs et ça en décourage certains, il faut le dire.
Bon, le concept n'est pas nécessairement non plus compris parce que je sais que tu t'es fait poser la question là, suite à tes interventions, que ce soit à la télé ou à la radio. Le président, lui, joue pas son siège, là, mais le contrôle pour faire passer ses projets de loi, ça peut être autrement plus difficile en raison du résultat qu'il pourrait y avoir cette semaine.
Oui, exactement. Alors, le président reste en place et c'est vraiment le Congrès qui pourrait perdre le contrôle. On pourrait avoir un président républicain et un Congrès démocrate. Ça s'est vu et ça se voit très, très souvent dans les présidences. Barack Obama, par exemple, a souvent eu un Congrès qui était contre lui, donc un Congrès républicain. C'est comme dire ici, François Legault resterait à la tête du Québec, mais l'Assemblée nationale pourrait être libérale, pourrait être Parti québécois, pourrait être du Québec solidaire. Alors, il doit faire avec ça. C'est sûr que ça peut rendre certaines décisions difficiles. On le sait déjà, la relation d'amour entre les démocrates et Trump est vraiment pas au rendez-vous. Mais selon les sondages, si on se fie et on s'y fie, mais avec, je dirais, à demi-mesure, le Sénat pourrait rester aux mains des républicains parce que les courses, les 33 que je vous disais tantôt, les sièges du Sénat sont vraiment pas en faveur des démocrates. La carte est pas en faveur d'eux pour cette élection-ci. Alors, les démocrates pourraient ne pas prendre la majorité au Sénat, mais le prendre à la Chambre des représentants. Ce qui ferait quand même... Je vous dirais un bon contrôle, un peu l'Assemblée nationale qui contrôlerait, ça serait les démocrates, mais du côté du Sénat qui est des décisions importantes, ça, je vous rappelle seulement une qui est fraîche dans notre mémoire, le Brett Kavanaugh. Mm-hmm. Alors ça, c'était une décision qui était prise par le Sénat, c'est pour démontrer l'importance de cette institution-là aux États-Unis.
Et quand, il y a des courses qui vont être à prévoir, mais tout ça ne sera pas réglé en dedans de 24 heures. Tu me disais que certaines courses, ça prend des décisions claires et donc on pourrait se retrouver pas encore pendant des jours et des semaines dans des endroits très, avec des courses extrêmement serrées.
Oui, et même, il y a un exemple, le Mississippi. Alors ça, c'est pour le Sénat. Il y a un sénateur qui doit être élu. Il y a des républicains qui s'affrontent. C'est comme si on mélangeait des républicains et des démocrates. Alors c'est ouvert à tous. C'est pas un candidat républicain et un candidat démocrate. Alors s'il y a aucune des personnes qui a la majorité parce que le vote est divisé parmi les différents candidats républicains, il va falloir avoir une autre élection pour avoir la majorité de 50+1 au Mississippi. Ça veut dire que le Sénat, ça pourrait être à égalité jusqu'au mois de novembre, par exemple. En Géorgie aussi, c'est la même chose pour le poste de gouverneur. Il y a un indépendant qui est présent. La Géorgie, là, c'est Stacey Abrams. Ça, c'est la première afro-américaine pour être gouverneur de cet État-là.
On a vu. Pas qu'il y a eu l'appui de Oprah, justement.
Exactement, cette semaine. Il y a Will Ferrell aussi qui est allé sur place contre Brian Kemp, qui est extrêmement controversé, qui est un républicain. Alors, si aucun des deux a 50+1 à la soirée du 6 novembre, ça va jusqu'au mois de décembre. Alors, vraiment, il va y avoir encore de l'incertitude au lendemain, à moins que les résultats, soient vraiment fracassants d'un côté ou de l'autre. Mais si on se fie au sondage encore une fois, la majorité, là, ils sont peut-être à 43% un, 45% l'autre et le reste à l'indépendant.
On a parlé beaucoup, les enjeux, évidemment, la caravane de migrants qui est en train de remonter. Puis je sais que c'est un peu controversé, même au sein des forces armées américaines. Certains trouvent que c'est déplacé d'utiliser les forces comme étant à quelques jours des élections, les faire déployer le long de la frontière mexicaine. Ça, c'est une chose. L'accueil des immigrants, les dossiers des sans-papiers, etc. Il y a d'autres enjeux également?
Oui, en dernier, on dirait vraiment que tout le focus est sur l'immigration. C'est vrai, le ton est très dur de la part de Trump, encore une fois. Il y a l'économie, on n'en parle pas beaucoup, là, mais le fait que ça va bien au niveau du chômage, la création d'emplois, ça compte beaucoup dans la balance pour les Américains. Ouais. Et c'est ça qui ferait qu'ils pourraient continuer de vouloir voter républicain à cette élection-ci en se disant, ben écoutez, Trump...
Ça, les indicateurs sont en sa faveur. Il pas sortir de là.
Exactement. Alors, au niveau de l'économie, ça va bien. Mais il y a plusieurs autres. Le contrôle des armes à feu, on en a presque pas parlé. Et pourtant, je vous rappelle qu'il y a une semaine, il y avait une tuerie dans une synagogue. On en a parlé. Ça a duré quoi? 24 heures, le cycle de contrôle?
Vendredi soir, t'es allé à SI, encore deux personnes qui se sont fait descendre dans un studio de yoga, là.
Et voilà. Et moi, quand je dévance un petit peu les choses, mais je vais me rendre en Floride bientôt et je vais me rendre à Parkland, entre autres.
Oui.
Et j'ai déjà parlé à quelques personnes qui me disaient, ben, écoutez, j'en reviens pas que le débat des armes à feu est même pas présent. C'est comme s'il était éclipsé par tellement d'autres choses, dont l'immigration. Et l'immigration, c'est pas la priorité de beaucoup d'Américains. En ce moment, ils se disent, nous, on veut régler les problèmes ici. On envoie des troupes à la frontière. Mais pourquoi est-ce qu'on protège pas les jeunes dans les écoles? Alors vraiment, il y a certains sujets qu'on a mis de côté au profit d'autres parce que l'immigration, ça vend pour la base républicaine. Il y en a des gens qui se disent, ah, le ton, il est dur. Nous, on aime ça. Ben, on va se déplacer le jour de l'élection. On va aller voter pour le parti de Donald Trump.
Mais en même temps, c'est un peu comme ici, lorsqu'on parle du dossier de l'immigration, lorsqu'on le fait dans l'élection québécoise, où ça allait toucher des cordes sensibles, c'est beaucoup dans les communautés rurales. Et pourtant, ce sont les communautés les moins exposées à l'immigration. Aux États-Unis, c'est la même affaire, là, où il va toucher des cordes sensibles. C'est dans des secteurs où l'immigration, c'est pas un facteur.
Exactement. Et je vous dirais même, j'irais plus loin, les républicains, il y en a beaucoup qui engagent des immigrants pour travailler. Alors, pour eux, Jeb Bush, là, dans le temps, il disait en campagne électorale, voyons de couper l'immigration, on en a besoin pour nos entreprises aux États-Unis. Alors, c'est comme un discours qui c'est un couteau à double tranchant, je dirais. Et ça concerne surtout le sud des États-Unis, donc le Midwest américain. Ça les concerne pas directement.
Mais tu touches des cordes sensibles. Moi, je suis
pas
d'accord là-dessus.
Oui, peut-être, oui, au niveau des valeurs. Des valeurs parce qu'ils se disent toujours, les Américains en premier, pourquoi est-ce qu'on donnerait plus à des gens qui arrivent ici légalement?
Des craintes, des perceptions, là.
Oui, c'est ça. Et on joue énormément sur les perceptions. Il y a la publicité qui circulait énormément, qui est une des plus racistes de ce qu'on dit de la dernière génération, à qui disait, ben, écoutez, les démocrates ont permis l'arrivée de tueurs, de policiers dans la publicité, là, qui était présentée. Ça disait un cop killer, alors un tueur de policiers qui allait recommencer. Et ça, c'était directement lié aux démocrates. Alors, le message, c'était vous votez démocrate, il y a des tueurs qui vont rentrer et c'est de leur faute.
Tu as parlé des courses à surveiller tantôt, là, les quelques-unes. Tu t'en vas en Floride. Pourquoi la Floride en particulier?
Alors, il y a deux choses importantes. Au Sénat, les deux sénateurs sont côte à côte, sont nés à nés. Alors, ça va vraiment être intéressant. La Floride, qui est considérée comme un swing state, ça peut souvent aller d'un côté ou de l'autre, républicain ou démocrate. Mais vraiment, la course à surveiller, c'est Andrew Gillum contre Ron DeSantis. C'est pour le poste de gouverneur. Andrew Gillum, ça serait le premier Afro-Américain à diriger l'État de la Floride. Il est très près de Bernie Sanders, un progressiste. Ron DeSantis, on dit que c'est le plus grand fan, le plus grand supporter de Donald Trump.
C'est pas lui qui faisait lire à ses enfants là, les Make America Great Again puis bâtir en Lego un mur, là.
Exactement, qui avait dit à son petit garçon Build a Wall pendant qu'il jouait avec des Lego et qu'il lisait The Art of the Deal à son fils avant de se coucher. Alors, vous voyez un peu le genre, il flatte toujours Donald Trump dans le sens du poil. Il est là à Fox News à le défendre bec et ongle. Alors, on a un côté un progressiste, un peu à la Barack Obama, très charismatique, et on a un Ron DeSantis, le ton très dur de Donald Trump. Ça va vraiment être intéressant à voir.
Donc, tu seras là cette semaine?
Oui, exactement.
On va suivre tes reportages ailleurs sur nos ondes?
Oui, exactement. Alors, je vais être dans toutes les émissions principales. Alors, Paul Arcand, Bernard Drinville, Paul Oud et les interventions dans les bulletins de nouvelles. On va s'intéresser à Parkland. Je l'ai dit tout à l'heure, le débat des armes à feu. Je vais aussi aller voir des électeurs francophones. J'en ai des républicains et j'en ai des démocrates. Ça va être intéressant de voir le point de vue de Québécois qui sont installés depuis environ 30 ans là-bas. Pourquoi ils votent pour Donald Trump à l'élection? Alors, on va voir tous les détails là, dans les différentes émissions.
Et les chercheurs associés à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, Valérie Beaudoin, merci.
Merci.
Bon séjour là-bas. De retour dans quelques minutes avec la suite de Weekend Extra.